Le journal de la rédaction est donc présenté par vous, Ilan Malka, bonsoir.
Bonsoir Julie Gacon, bonsoir à tous. À deux jours du début du G7, c'est une journée particulièrement chargée pour Emmanuel Macron. Il a rencontré tout à l'heure à 13h le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux hommes ont évoqué le Brexit, un sujet sur lequel ils ont du mal à se mettre d'accord. Nous ferons le point sur cet échange avec Élise Delève. Actuellement, le président français s'entretient avec une personnalité controversée, le Premier ministre indien Narendra Modi. Nous en parlerons avec Mathilde Vallant. Le G7 de samedi peut-il permettre des avancées écologiques? Certains n'y croient pas du tout. Ce sont par exemple ces ONG environnementales réunies au sein de Réseau Action Climat qui ont décidé de boycotter l'événement. D'autres associations sont quand même à Biarritz pour essayer d'attirer l'attention sur ces sujets, mais elles n'ont pas grand espoir non plus d'y parvenir. C'est ce que nous dira Rosalie Lafarge. Et puis nous nous rendrons au Danemark avec cette affaire étonnante. Quelques 10 700 enquêtes judiciaires pourraient être rouvertes. Ceci à cause d'erreurs de géologie. Localisation sur des téléphones portables. Juliette G nous en dira plus. Ils ont parlé du Brexit et ce qu'il en est ressorti n'est pas très étonnant. Ils ne sont pas vraiment d'accord. Emmanuel Macron et Boris Johnson ont échangé pendant 2 heures à l'Elysée aujourd'hui. Le Premier ministre britannique demande toujours à renégocier l'accord conclu entre Londres et l'UE pour éviter un Brexit dur le 31 octobre. De son côté, le président français ne semble pas prêt à beaucoup de concessions. Même s'ils essayent chacun de mettre un petit peu d'eau dans leur vin, les deux hommes conservent des positions assez opposées. Notamment Élise Delève, autour du backstop, c'est le principal point d'achoppement. Comment empêcher le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande?
Oui, même si la poignée de main a été chaleureuse, la question du backstop, ce filet de sécurité, a tendu les échanges entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Le Premier ministre britannique veut un nouvel accord avant le 31 octobre. Emmanuel Macron souhaite éviter un Brexit dur, mais pas à n'importe quel prix.
Vous savez, on m'a toujours dépeint comme le plus dur de la bande. Je vais être ici très clair. Dans le mois qui vient, on ne va pas trouver un nouvel accord de retrait qui soit loin des bases. S'il y a des choses qui, dans le cadre de ce qui a été négocié par Michel Barnier, peuvent être adaptées et sont conformes aux deux objectifs que je viens de citer, stabilité en Irlande, intégrité du marché unique, on doit les trouver dans le mois qui vient. Ce n'est pas la négociation qui peut le régler, c'est un choix politique que le Premier ministre aura à prendre. Ce n'est pas à nous de le faire.
La balle est donc dans le camp de Boris Johnson qui répète devant le président français que le backstop est une atteinte à la souveraineté de l'État britannique.
Pour être clair, Monsieur le Président, il faut parfois répéter les choses, mais en aucun cas le gouvernement britannique n'imposera des contrôles à la frontière entre Irlande du Nord et République d'Irlande. Et je comprends votre souhait de protéger l'intégrité du marché unique, mais nous pensons que nous pouvons protéger cette intégrité et autoriser le Royaume-Uni à quitter l'Union européenne sans être divisé.
Des solutions techniques sont possibles, poursuit Boris Johnson, qui évoque la mise en place d'un système peut-être de contrôle électronique pour les transports de biens. Le président français attendait des clarifications sur le projet britannique. Il en aura eu finalement très peu.
Élise Delève avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. Emmanuel Macron qui a décidément un agenda chargé après avoir donc vu aujourd'hui Boris Johnson, puis le chef du gouvernement grec Kyriakos Mitsotakis. Le président s'entretient en ce moment même avec Narendra Modi, le premier ministre indien. L'Inde est l'une des puissances que la France a souhaité associer au sommet du G7, au même titre que le Chili ou l'Australie. Sur le site officiel du G7, l'Inde est d'ailleurs qualifiée par Paris de partenaire soucieux comme nous du respect des valeurs démocratiques et des liberté fondamentale. Fin de citation. Bonsoir Mathilde Vallant.
Bonsoir.
Alors cette phrase peut t'interroger. Cet été au Cachemire indien, 4000 personnes ont quand même été interpellées, on le sait, en vertu d'une loi qui permet aux autorités indiennes d'emprisonner une personne jusqu'à 2 ans sans accusation ni procès. Et de manière générale, Narendra Modi demeure quand même une personnalité controversée.
Si la France déroule aujourd'hui le tapis rouge au Premier ministre indien, il n'en fut pas de même pendant plus de 10 ans, rappelle la journaliste Ingrid Tervach, spécialiste de l'Inde.
Il semble aujourd'hui que nos gouvernements en Europe et aux États-Unis ont la mémoire très courte parce que eux-mêmes avaient pris la décision de retirer tout visa à Narendra Modi de 2004 à 2014, date de son élection à la tête de l'Inde. Il n'avait pas le droit de se rendre sur le sol américain ni sur le sol européen. Par ailleurs, la France, qui avait une position assez claire de 2004 à 2014, a complètement changé de position officielle. Macron est allé jusqu'à dire que Narendra Modi était comme son frère. Je rappelle donc que Narendra Modi est accusé d'avoir laissé faire des pogroms.
Ce pogrom anti-musulman que Narendra Modi est accusé d'avoir laissé faire s'est déroulé en 2002 au Gujarat, au moment où Modi prenait la tête de cet État qu'il a ensuite dirigé pendant 13 ans. Les rares témoins qui, de l'intérieur, ont accusé Narendra Modi d'avoir orchestré ces émeutes le payent très cher aujourd'hui, à l'image de Sanjeev Bhatt, un haut gradé de la police du Gujarat qui, dès 2009, a collaboré avec les enquêteurs Ingrid Tervat.
Il a expliqué que Narendra Modi avait donné l'ordre, et il en a été témoin, avait donné l'ordre de laisser faire les exactions anti-musulmanes pendant un certain nombre d'heures.
Les policiers ne devaient pas intervenir.
Devaient laisser faire les gens qui massacraient les musulmans. Donc la Cour suprême a examiné ce témoignage et très rapidement, toute l'affaire Sanjeev Bhatt est devenue une affaire complètement politique. Donc il a été d'abord muté, il y a eu des tas de représailles. Finalement, il y a eu une plainte déposée contre lui pour une très vieille affaire d'il y a presque 30 ans. Un homme est mort à l'hôpital après avoir été arrêté. Et on reproche cette mort à Sanjeev Bhatt.
Bien évidemment, pour la famille de Sanjeev Bhatt, tout est fabriqué. D'ailleurs, il a été blanchi de cette accusation en 1995. Et pourtant, arrêté en septembre dernier, le policier vient d'être condamné à la prison à perpétuité dans ce même dossier. Rappelons que les émeutes ont fait autour de 2000 morts au Gujarat, un chiffre non officiel car, vous l'aurez compris, la vérité a du mal à éclater.
Merci à vous Mathilde Vallant. Je renvoie vers votre page internet consacrée justement à ces policiers qui ont témoigné contre le Premier ministre indien Narendra Modi, à retrouver sur notre site franceculture.fr. Le G7 qui va s'ouvrir samedi à Biarritz va-t-il faire suffisamment de place à l'environnement? Les réponses sont diverses à cette question. Non, estiment les ONG environnementales réunies au sein de Réseau Action Climat, réseau qui fédère 32 associations dont France Nature Environnement ou Greenpeace. Le réseau va boycotter le G7 purement et simplement. Il dénonce la décision de l'Élysée de limiter le nombre d'accréditations des ONG et de les garder à l'écart du sommet. D'autres fondations veulent par contre profiter du moment pour sensibiliser à la thématique de l'environnement. Elles sont venues sur place à Biarritz pour attirer l'attention des personnalités présentes, même si elles n'espèrent pas grand-chose non plus. Rosalie Lafarge les a rencontrées.
Les défenseurs de l'environnement ont une crainte que le G7 n'accouche que de grandes déclarations d'intention, bien loin de suffire pour le relais hippicourt de la plateforme Océan et Climat.
Les constats, on les a, ça fait des années qu'on les a, on a toutes les billes pour agir. Il faut maintenant que nos gouvernements mettent les moyens. Quand on parle d'environnement, quand on parle de biodiversité, c'est forcément un enjeu international. Il y a un besoin d'agir ensemble vers une stratégie qui est plus durable et surtout qui est beaucoup plus concrète que des discours.
Oui, mais on vient de loin, tempère l'océanographe et député européen En Marche, Pierre Karleskind.
Il faut bien voir que pendant longtemps, la question de l'environnement a été une question dont l'urgence n'était pas tout à fait palpable. Et pour des hommes d'État qui ont en général, beaucoup d'urgence à résoudre avant de penser à long terme. Mais je crois qu'ils savent qu'il y a maintenant l'urgence. Elle est là et il va falloir la traiter.
Mais certains, moins convaincus de cette prise de conscience générale, croisent les doigts pour que le lieu du G7 choisi par Emmanuel Macron pousse le groupe des 7 à aller plus loin en matière de protection de l'environnement. Pourquoi a-t-il choisi Biarritz, souligne Chad Nelson, le directeur général de la fondation Surfrider aux États-Unis qui milite pour la protection de l'océan. Parce que c'est une belle ville côtière et qu'il voulait être au bord de la mer. Ils aiment tous l'océan. La moindre des choses, ce serait de se dire, nous devrions le protéger pour qu'il reste intact. Ce que je veux dire, c'est que lui comme les autres doivent en faire plus. Et parmi les autres, il y a notamment Donald Trump dans le viseur des défenseurs de la planète, le président américain qui s'attache régulièrement à démontrer que l'écologie, c'est à peu près le cadet de ses soucis.
Reportage signé Rosalie Lafarge. C'est l'une des questions du jour, nous vous en parlions déjà à 12h30. Les supermarchés profitent-ils de l'engouement pour le bio pour réaliser des marges abusives? C'est en tout cas l'accusation de l'association UFC Que Choisir. Elle a mené une étude de mai 2018 à mai 2019 sur les 24 fruits et légumes les plus consommés. Et elle en arrive donc à cette conclusion. Les marges de la grande distribution sur le bio sont 75% plus importantes que sur les fruits et légumes dits conventionnels. Marge particulièrement importante sur les pommes, pommes de terre ou encore tomates. Alors que répond à cela la grande distribution? Eh bien écoutons Jacques Cressel, il est délégué général de la Fédération des entreprises du commerce et de la grande distribution.
Cette étude n'est pas sérieuse. Il donne notamment des chiffres concernant les marges brutes, c'est-à-dire la différence entre un prix au producteur et un prix au consommateur. Or, ça ne tient absolument pas compte des intermédiaires, des coûts de distribution. naturellement, les marges nettes, elles, à la fin, sont extrêmement faibles. Vous savez que dans la grande distribution, d'une manière générale, les marges sont entre 0 et 1%. Ce sont des études non scientifiques sur quelques magasins. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une étude générale qui est en cours aujourd'hui dans le cadre de l'Observatoire des prix et des marges du ministère d'Agriculture. Nous y travaillons naturellement et ceci permettra d'avoir les vrais chiffres. Mais quand on donne des éléments sur un légume comme le poireau qui doit représenter 0,01% des ventes et sur le poireau bio qui est encore plus infinitésimal, on voit bien que ceci ne correspond pas à une réalité économique.
Propos recueillis par Noémie Philippot. De qui, aux États-Unis, émane la phrase suivante : les entreprises devraient mettre l'accent tout autant sur leur responsabilité sociale que sur la génération de bénéfices. Réponse étonnante, cette phrase émane d'une déclaration publiée cette semaine par le Business Roundtable, le lobby qui représente les dirigeants des 180 plus grosses entreprises américaines, par exemple Amazon, Pepsi ou encore Apple. Depuis 50 ans, ce lobby a pourtant érigé en principe que la raison d'être d'une entreprise est de satisfaire les intérêts des actionnaires. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Ilan.
Alors, la publication de cette déclaration laisse entendre que ces entreprises américaines envisagent une sorte de virage social ?
Oui, enfin, bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un contexte. N'oublie pas que nous sommes déjà en campagne aux États-Unis. Le mécontentement gronde outre-Atlantique face aux inégalités croissantes. Et les candidats de l'investiture démocrate ont placé cette question au cœur des débats. Mais derrière cette déclaration, il y a aussi et surtout la pression croissante que subissent de nos jours les grands patrons de la part de leurs employés, des réseaux sociaux et des clients sur différentes questions éthiques et environnementales. Car le monde a changé, Ilan. Les millennials, comme disent les Américains, ou la génération Y, qui est le nom donné à toutes les personnes nées entre 1980 et 2000, sont devenues l'une des priorités pour toute grande entreprise. D'abord, ils sont les consommateurs de demain. Des consommateurs plus informés grâce à Internet et plus puissants grâce aux réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qui peuvent ruiner la réputation d'une entreprise en un clic. La hantise des entreprises cotées en bourse. De plus, les millennials cherchent du sens. Un bon salaire ne suffit plus. Pour les employeurs américains, il devient de plus en plus difficile de recruter et de retenir les talents, surtout dans les entreprises opérant dans les nouvelles technologies. Alors pour être plus attractifs, plus désirables, ils affirment leur rôle dans l'amélioration de la société. Parmi les engagements phares de ces grands patrons cette semaine, une rémunération plus juste et plus de formation, ou encore la promotion de la diversité, ils promettent également de prendre en compte la protection de l'environnement. Bref, tout cela s'appelle en France la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. C'est encore timide, on en parle depuis 10 ans. Elle a été inscrite ce printemps dans la loi Pacte. Bon, la bonne nouvelle est que si les États-Unis s'y mettent vraiment, cela pourrait peut-être accélérer le mouvement en France.
Merci à vous, Annabelle Grelier. Le Parlement kosovar s'est autodissous aujourd'hui. 89 élus de l'Assemblée sur 120 l'ont décidé. C'est une dissolution qui intervient en raison de l'impossibilité de former une nouvelle majorité après la démission en juillet du Premier ministre Ramush Haradinaj. Cet ancien commandant de la guérilla kosovar avait quitté ses fonctions après avoir été convoqué par un tribunal international qui le soupçonne de crimes de guerre. Il y aura donc au Kosovo des élections législatives anticipées prochainement. C'est une affaire très étonnante qui déstabilise la justice danoise. Des erreurs de géolocalisation de téléphones portables ont-elles placé des innocents sur des scènes de crime ou au contraire soustrait des criminels à la justice? C'est le doute qui plane désormais sur 10 700 enquêtes judiciaires instruites depuis 2012 au Danemark. Bonsoir Juliette G.
Bonsoir.
Alors les autorités prévoient de rouvrir ces affaires?
Oui, pour le ministre de la Justice danois, cette découverte mine la confiance dans le système juridique. Deux erreurs principales ont été détectées. La première concerne le système informatique qui transmet les données des opérateurs téléphoniques à la police. Durant la conversion, des informations ont été perdues, rendant la géolocalisation moins précise. Dans le second cas, des téléphones ont été connectés aux mauvaises antennes relais. Des innocents ont donc pu être associés à des scènes de crime par erreur. Depuis, le parquet danois a demandé l'arrêt de l'utilisation de telles données dans les affaires criminelles. Pendant 2 mois, elles ne pourront plus servir à justifier une arrestation. Son argument, on ne peut pas laisser de fausses informations envoyées déjà en prison. Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur de possibles erreurs dans d'autres pays. Mais pour Caroline Norman, qui préside l'Institut de droit pénal du barreau danois, ce problème pourrait être international. La police utilise en effet dans le monde entier les données de géolocalisation de compagnies téléphoniques. Cette erreur remet en cause l'utilisation des positions GPS comme preuve, rappelant au juge que même la technologie est faillible.
Merci à vous, Juliette G. Demain, soleil et ciel bleu sur la très grande majorité du pays, mais il pourrait y avoir encore de la pluie par moments sur la Corse et sur les Alpes. Les températures de demain matin partent de 19 du côté de la Manche, elles montent jusqu'à 29 dans les Bouches-du-Rhône. Édition préparée avec François-Charles Domergue, réalisée à la technique par Pascal Baudin.